Il est 8h.
Élu président du conseil régional, il va le quitter pour œuvrer dans ses visions politiques présidentielles. C'est pour moi antinomique.
Le dilemme pour les électeurs des Hauts-de-France. Xavier Bertrand peut-il être renforcé par le vote des sympathisants de La République En Marche ? Reportage à Lille dans un instant et le regard global du spécialiste de l'opinion Bernard Sananès sur un critère clé pour le second tour, la participation. Une femme tout autant accusée que victime. Après des années à subir une violence inouïe, Valérie Bacot avait tué son mari. Verdict de son procès attendu aujourd'hui. Et puis, les paris sportifs jusque dans les cours de récréation. C'est pourtant illégal, mais de nombreux jeunes rêvent d'argent facile grâce aux résultats sportifs. Certaines plateformes de paris en ligne l'ont compris et ciblent des publics jeunes et précaire, c'est le dossier d'Europe 1 ce matin. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Marlène Schiappa dénonce l'alliance de la gauche en Ile-de-France. Mais que pense-t-elle alors des appels à voter Valérie Pécresse de la part de Manuel Valls et Jean-Paul Huchon, la ministre et tête de liste. L'AREM à Paris est mon invité. Rendez-vous 8h15.
On vous retrouve juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Y aura-t-il des surprises à nouveau au second tour ? Par définition, on ne le saura que dimanche soir, mais les nouveaux équilibres qui s'installeront pour 6 ans dans les conseils régionaux planteront aussi un décor, celui du vote des Français à 10 mois de la présidentielle. Mais encore faut-il qu'ils votent. 2 sur 3 avaient délaissé l'isoloir dimanche dernier.
Alors y aura-t-il un rebond de la mobilisation, rebond espéré et même imploré par les responsables du Rassemblement National ? Et la question que l'on a posée ce matin sur Europe 1 à Bernard Sananès, politologue qui dirige l'Institut Elabe.
En 2015, au premier tour, il faut le rappeler, la participation entre les deux tours avait progressé de plus de 8 points. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu une dynamique de l'entre-deux tours, une dynamique politique, médiatique. L'intérêt de cet entre-deux tours avait été focalisé sur la question de savoir si le Rassemblement National, le Front National à l'époque, allait gagner des régions ou pas. Et cela avait boosté la participation. Il n'y a pas eu cette semaine d'éléments qui laissent penser à un grand sursaut de la mobilisation. En revanche, dans certaines régions, 3 ou 4 régions où le scrutin apparaît serré, il pourrait y avoir une progression effectivement d'électeurs qui se disent bien j'ai raté le premier tour mais l'enjeu est tel que je vais me déplacer. Donc pas de mobilisation, pas d'inversion de tendance, l'abstention restera très forte, elle restera le fait politique majeur de ce scrutin, peut-être au global une légère progression et surtout dans 3 ou 4 régions les plus disputées, peut-être petit sursaut électoral.
Bernard Sananès qui était en direct ce matin, l'invité de Sébastien Krebs dans le 5-7 d'Europe 1.
Autre estimation, celle publiée ce matin par Opinionway pour CNews qui donne une égalité des intentions de vote en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
50-50 entre Renaud Muselier et Thierry Mariani. Quant à la région des Hauts-de-France, c'est Xavier Bertrand qui est donné largement vainqueur avec 53% devant Sébastien Chenu du RN 26 et Karim Adeli de l'Union de la Gauche 21%. L'enjeu pour le sortant est de faire le score le plus élevé possible. Lui qui est en compétition non dite avec Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Xavier Bertrand qui pourrait bénéficier de report de voix après le désistement du candidat de La République En Marche. Reportage dans les Hauts-de-France de Lionel Couge.
Cet appel de Laurent Pietraszewski a voté Xavier Bertrand. Adèle l'attendait dès dimanche soir pour que soit réaffirmé clairement le barrage au Rassemblement National.
Il a donné des consignes très claires et qui renforcent évidemment tout ce qui est démocratie et qui s'oppose au Rassemblement National. Moi je me réjouis vraiment. Il n'a pas hésité et ça pour nous c'est rassurant quand même.
Et pour beaucoup de sympathisants marcheurs comme Louis, le vote Xavier Bertrand sera un vote de raison avec toutefois quelques réserves.
Xavier Bertrand, je le trouve moi très très dur et un petit peu c'est nul aujourd'hui ce qui se passe, et ça, moi ça m'agace. Bon, après, il est à la place d'eux, donc on va pas ni s'abstenir, ni voter pour autre. Donc j'y vais pour Xavier Bertrand, parce que c'est comme ça, c'est, je peux pas dire c'est le moins mauvais, mais bon, après j'aimerais bien qu'on se calme un peu sur la critique systématique et facile.
Et ce qui chagrine aussi Eric, c'est de voter pour un futur challenger d'Emmanuel Macron.
Élu président du conseil régional, il va le quitter pour œuvrer dans ses visions politiques présidentielles. C'est pour moi antinomique. C'est voter pour quelqu'un qui va aller, à la limite, combattre nos idées, puisqu'on va soutenir Macron et il va se positionner face à Macron.
Alors pas sûr que dimanche soir, les voix de La République En Marche du premier tour s'additionnent toutes à celles de Xavier Bertrand. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et même si la sécurité n'est pas l'un des champs d'action des conseils régionaux, c'est une nouvelle fois ce thème qui a été mis en avant hier soir lors d'un débat sur BFM TV entre les 3 candidats dans les Hauts-de-France. Un thème mis en exergue par Sébastien Chenu du Rassemblement National.
Moi, je crois qu'il ne faut pas que M. Bertrand se cherche d'excuses. Ça n'a pas été sa priorité, la sécurité. Il a peut-être eu des résultats dans certains domaines, mais en tous les cas, pas sur la sécurité. Il n'en a pas eu sur l'emploi, pas sur la sécurité, et ça, c'est moteur. M. Bertrand nous avait dit « je ferai un grand plan de lutte anti-drogue ». Il n'est jamais arrivé. Eh bien, moi, je ferai ce plan de la lutte anti-drogue. Parce que je vous ai dit, il y a des menaces. L'islamisme est une menace. Il ne faut pas gêner l'islamisme, il faut l'éradiquer. La lutte contre la drogue est une priorité. Le but de tout ça, voyez-vous, c'est quand même de faire baisser le niveau d'insécurité et de violence qu'il y a dans notre société. Et je pense sincèrement que c'est pas en s'insultant de menteur, c'est pas en disant je vais casser la mâchoire du Rassemblement National que M. Bertrand fait baisser le niveau de violence. Il y en a assez dans la société de la violence. Enfin, sincèrement, c'est pas en s'exprimant comme un voyou ou comme une racaille de banlieue qu'on arrive à hisser le débat politique vers le haut. Je pense que notre devoir, c'est de faire baisser cette insécurité et cette violence. Moi, j'y suis très déterminé, dans le respect de chacun, vous l'avez vu, mais avec des solutions et des propositions qui sont très précises et très chiffré.
Sébastien Chenu, hier soir, et ne manquez pas la soirée spéciale d'Europe 1 pour ce second tour, dimanche, dès 19h30, autour de Wendy Bouchard, avec tous les résultats, les invités, les analyses, jusqu'à 22h.
La politique internationale, avec une première rencontre à Paris entre Emmanuel Macron et le secrétaire d'État américain.
Oui, c'est-à-dire le chef de la diplomatie des États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. Anthony Blinken veut continuer de renforcer les liens avec les partenaires historiques des États-Unis.
Oui, consolider des alliances malmenées au cours du mandat de Donald Trump. Alors Anthony Blinken connaît bien Paris, il y a vécu 10 ans au cours des années 1970. Ce fils de diplomate a même obtenu son baccalauréat dans un établissement du 15e arrondissement. Le secrétaire d'État américain parle donc parfaitement le français. Il connaît également très bien Jean-Yves Le Drian. Ils se sont côtoyés entre 2012 et 2016, alors qu'Anthony Blinken était secrétaire d'État adjoint sous Barack Obama. Mais cette proximité et ces liens personnels entre les deux hommes ne signifient pas un alignement des États-Unis sur la position française, notamment concernant l'OTAN. Emmanuel Macron plaide pour une plus grande autonomie stratégique de l'Europe sur le sujet de la défense et le président français a également émis des réserves sur le bras de fer avec Pékin souhaité par Washington. Alors oui, une nouvelle relation transatlantique apaisée se dessine, mais sous un tropisme allemand. Il y a deux jours à Berlin, Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis n'ont pas de meilleur ami dans le monde que l'Allemagne. Et c'est d'ailleurs Angela Merkel qui sera la première dirigeante européenne reçue à la Maison-Blanche par Joe Biden le 15 juillet.
Anthony Blinken en ligne de New York pour Europe 1, les États-Unis.
Je crois que c'était Alexis Guilleux.
Allez, Alexis Guilleux, effectivement.
Anthony Blinken, on aimerait bien le regarder un peu plus longtemps peut-être.
Exactement, Alexis Guilleux, notre correspondant. Les États-Unis, avec ce qui s'est passé à Miami, où 99 personnes recherchées après l'effondrement d'un immeuble d'habitation de 12 étages. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. On compte un mort à ce stade des opérations de secours. 102 personnes ont été mises en sécurité. Les raisons de ce sinistre sont encore inconnues.
8h07 sur Europe 1. Le verdict du procès de Valérie Bacot est attendu aujourd'hui aux assises de Saône-et-Loire.
Avec une question que les jurés vont forcément se poser. Peut-on condamner une femme accusée d'avoir tué son mari quand celui-ci l'a battue pendant des années et l'a prostituée ? Hier, l'avocate de la partie civile a souhaité une condamnation car, dit-elle, un crime n'est jamais une solution. Mais tout au long de ce procès, c'est bien une femme victime qui est apparue dans le box. Jean-Luc Bougeon.
À la barre, Valérie Bacot parle d'une voix timide en ne cessant de s'excuser quand elle évoque sa vie, quand elle raconte les progrès qu'elle fait avec sa psychologue. Elle ne peut s'empêcher de dire à la présidente « Vous devez me trouver cinglée » ou alors « Je suis bête quand même, la cruche c'est moi ». Cette femme qui, durant des années, a subi les violences et les humiliations de son mari a pourtant passé un cap énorme durant cette semaine de procès. Hier, elle a enfin pu dire « Je suis quelqu'un, je ne suis plus une chose », des mots qui ont ému jusqu'à son avocate, maître Janine Bonadjunta.
Aujourd'hui, elle montre une image d'elle très positive. Elle qui avait été isolée, séquestrée et emprisonnée, a réussi à rebondir en trouvant un emploi, en continuant à élever ses enfants. Je vous avoue que j'ai eu les larmes aux yeux là tout à l'heure.
Mercredi a sans doute été un jour décisif quand la famille de son mari est venue dire quel monstre il était. Son frère a parlé d'un pervers et d'une bête sauvage. L'une de ses sœurs est venue raconter les viols qu'il lui avait infligés. C'est le procès de toutes les femmes battues, estime Sandrine Dubouy, qui préside le comité de soutien à Valérie Bacot.
Le combat de Valérie, c'est aussi pour toutes ces femmes qui actuellement vivent des violences et qui n'ont pas encore les moyens de porter plainte. Donc j'espère une prise de conscience au niveau peut-être de nos élus. Il y a vraiment urgence, urgence avec un grand U. Stop, on n'attend pas, on n'attend plus.
Le verdict est attendu en fin de journée. Une pétition pour la libération de Valérie Bacot a déjà recueilli plus de 700 000 signatures. Chalon-sur-Saône, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Autre affaire, celle de la disparition de Lucas Tronc. 15 ans dans le Gard en 2015 alors qu'il devait rejoindre son frère à la piscine. Des ossements et des fragments de vêtements et d'un sac qui pourraient être les siens ont été retrouvés hier sur une paroi rocheuse assez proche du domicile de ses parents.
On les voit partout, les pubs pour les sites de paris sportifs. 25 millions d'euros ont d'ailleurs été misés lors du match France-Hongrie la semaine dernière, un record absolu.
Bonjour Zoé Pallier.
Bonjour.
Vous avez enquêté, et c'est le dossier d'Europe 1 ce matin. L'autorité nationale des jeux alerte sur un phénomène très préoccupant. Les parieurs sont de plus en plus jeunes.
Oui, parce que même si officiellement il faut avoir 18 ans pour parier, en fait c'est assez simple pour un mineur de mentir sur son âge, surtout depuis que tout se fait sur internet. Résultat, d'après l'association SOS Joueurs, 4 jeunes de 17 ans sur 10 font des paris sportifs. La majorité ce sont des adolescents des quartiers populaires. Et ça, eh bien, les géants du secteur l'ont bien compris puisqu'ils font de ces jeunes la principale cible de leur campagne marketing.
C'est ce que vous avez pu constater auprès de jeunes de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, et on écoute votre reportage.
Impossible de manquer les grandes affiches publicitaires placardées sur tous les abribus dans la rue du collège. Elles mettent en scène un rappeur star chez les jeunes qui joue les plus grosses cotes et gagne des millions.
Moi, ça m'a attiré directement, l'affiche. Et aussi, il y a beaucoup de pubs sur les réseaux, sur Snapchat surtout.
Une opération séduction réussie. Dans la cour de récré, ici, c'est un peu la compétition à qui misera le plus grâce au code de carte bleue d'un grand frère ou d'un parent.
Quand tu paries, tu ressens mieux les émotions et tout ça. Par exemple, si ton équipe, elle marque, tu vas crier parce que t'as parié une grosse somme d'argent.
T'as pas parié, tu vas dire ouais, bof.
Au risque de devenir accro, Antoine et Erwan ont 16 ans. La sonnerie de la récré n'a même pas fini de retentir qu'ils se jettent sur leur téléphone.
Quand c'était la pause du foot en attendant l'Euro, j'avais envie de gagner de l'argent quand même, hein, et vibrer aussi sur les matchs. Et du coup, tu paries des trucs que tu connais même pas. Du foot australien, du hockey et tout, à 2h du matin, 3h.
Puis quand tu fais ça, c'est quand tu commences à perdre. Et là, tu commences à faire un peu n'importe quoi. T'as envie de regagner vite, au final, tu perds encore plus.
Karim vient justement de laisser filer 50 euros après s'être plusieurs fois promis d'arrêter.
Moi, ça m'est même arrivé mettre des 200 euros, 250, juste pour un match. Et en même temps, on a grandi dans ça, ça veut dire maintenant tout le monde le fait. Les grands de notre quartier, ils font des paris et après nous, on rentre dans l'engrenage, on essaye à faire pareil.
Et ce, malgré l'exemple de jeunes adultes dans leur entourage qui se retrouvent endettés après avoir perdu des centaines, voire des milliers d'euros en paris.
Alors, ce qui est frappant avec ces témoignages que vous avez récoltés, Zoé, c'est que ça a l'air tout simple. Que fait le régulateur du secteur, c'est-à-dire l'autorité nationale des jeux.
Alors sa présidente me l'a indiqué hier, elle vient d'envoyer une lettre aux opérateurs pour les mettre en garde et leur rappeler deux choses essentielles. Déjà qu'ils ont l'obligation de protéger les joueurs en les redirigeant par exemple vers des structures de soins pour les plus addicts. Leur rappeler ensuite que le régulateur peut décider de retirer toute publicité jugée mensongère.
Dossier de la rédaction d'Europe 1, dossier signé Zoé Pallier.
Et à propos de sport, c'est déjà ou c'est enfin le début du Tour de France. On ne sait plus très bien avec les dates qui ont pu changer ces derniers mois. Le début du Tour de France demain, qui part d'ailleurs non pas de Copenhague comme prévu initialement, mais de Brest. Grande boucle de 3414 km. Et a priori, on va s'amuser hein, devant la télévision, Marguerite Lefebvre.
Les organisateurs voulaient du spectacle dès les premières étapes et ce sera sans doute le cas en Bretagne avec deux premières journées très accidentées, pleines de bosses, taillées pour les punchers et pourquoi pas un certain Julien Alaphilippe. Après la Bretagne, diagonale toute, direction les Alpes que les coureurs atteindront dès la fin de la première semaine. Le peloton descendra ensuite vers le Vaucluse et l'une des étapes les plus en vue de ce Tour de France, la double ascension du Ventoux. Ce sera le 7 juillet avant de filer vers les Pyrénées et ses pentes mythiques, le Peyresourde, le col de Portet ou encore le Tourmalet, vous le voyez, de la montagne, il y en aura. Mais moins que l'an dernier, 5 étapes seulement. Les sprinteurs, eux, auront 8 fois l'opportunité de lever les bras. Le patron du Tour, Christian Prudhomme, a voulu rééquilibrer un peu le parcours.
Notre volonté, c'est vraiment de varier, c'est pas de durcir. On met au maximum 2 étapes consécutives faites pour les sprinteurs. Et il y a un retour des étapes de moyenne montagne, des étapes dites accidentées. Il y en aura 5, en fait, dans le prochain Tour. C'est souvent sur ces étapes-là, qui ne payent pas forcément de mine, que les surprises peuvent être les plus grandes.
Et des surprises, il pourrait y en avoir jusqu'au bout, jusqu'au contre-la-montre final, la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, 31 km au milieu des vignes, entre Libourne et Saint-Émilion. Ce sera le juge de paix de ce Tour 2021.
Le Tour de France sur Europe 1 avec dès demain et tous les jours à 7h10 le journal du Tour. Rendez-vous avec Richard Virenque tous les jours à 13h et puis l'étape, l'arrivée dans le 18-20 d'Europe 1 suivi du Club Tour.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invitée, la ministre en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée. Ce matin, la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, tête de liste à Paris pour les élections régionales.
Bienvenue à vous et bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour, merci.
Face à l'abstention qui risque d'être tout aussi massive ce dimanche qu'au premier tour, vous aviez annoncé une campagne de communication éclair pour inciter notamment les plus jeunes à aller voter. Elle est où cette campagne ?
Ah ben, elle est déjà lancée. En fait, peut-être vous n'êtes pas présente sur les réseaux sociaux
fréquentés
par les jeunes.
Non, c'est qu'elle est tellement éclair qu'on ne l'a pas vu passer, cette campagne.
Bah, pardon, vous êtes sur Snapchat, TikTok, sur les forums de jeux vidéo, de discussion de jeunes. Si oui, vous l'avez vu.
Ah, ce n'est que comme ça qu'on parle aux jeunes, c'est qu'en passant par TikTok et autres réseaux sociaux
non,
de ce niveau-là.
Vous n'êtes pas obligé d'être caricatural dès le début de l'interview, c'est absolument pas ce que j'ai dit. D'abord, le gouvernement avait lancé une première campagne pour inciter à voter et puis pour expliquer ces élections, rappeler les dates, puisque les dates, elles ont été modifiées. C'est pour la première fois un double scrutin. Départemental, régional, c'est une première historique. Il y a un millefeuille administratif, c'est pas toujours clair pour tout le monde de savoir quelles sont les compétences des départements, celles des régions. Donc il y a eu une première campagne, plusieurs centaines de milliers de personnes ont regardé les visuels, consulté les vidéos d'explication, et puis nous avons boosté cette campagne. Et c'est le service d'information du gouvernement qui s'en est chargé, qui est sous l'autorité du Premier ministre et qui a donc créé des visuels et des vidéos qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, notamment dédiés aux jeunes, et sur un certain nombre de médias qui se sont engagés dans un engagement citoyen.
Mais ce n'est pas caricatural, hein, Marlène Schiappa, de vous demander vraiment si une stratégie envers les jeunes, c'est forcément sur les réseaux sociaux et autres TikTok, c'est pour parler aux jeunes, c'est forcément inviter des youtubeurs à l'Élysée. Moi, je trouve que c'est une vraie question.
Non, pas forcément. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses, mais effectivement, vous l'avez dit, l'entre-deux tours, c'est à peine 5 jours de temps de campagne. Donc, effectivement, on va au plus rapide. Je ne dis pas que ça va résoudre l'abstention en quelques jours, mais si d'autres ont de meilleures idées, elles sont évidemment bienvenues.
Vous dénoncez, Marlène Schiappa, l'alliance de la gauche en Île-de-France menée par Julien Bayou. Pourquoi alors ne pas directement appeler au vote de celle qui est la mieux placée pour battre cette alliance, Valérie Pécresse ?
Oui, on peut aussi ne jamais se présenter nulle part et puis se retirer systématiquement pour avoir des deuxièmes tours avec des face-à-face. Moi, je me suis engagée en politique avec Emmanuel Macron et avec sa démarche de dépassement des clivages. Et donc moi, je crois qu'il est important qu'au Conseil régional d'Île-de-France, on puisse avoir un groupe progressiste de la liste menée par Laurent Saint-Martin, d'élus qui sont En Marche, Modem, Agir, de la majorité présidentielle et qui soit présent.
Parce que vous ne voulez pas donner les pleins pouvoirs en fait à Valérie Pécresse en conseil régional.
Exactement, parce que là, il y a un petit jeu.
C'est
un
argument, ça pour.
Il y a un petit jeu un peu de mauvaise foi électorale, si je peux me permettre. Valérie Pécresse fait croire qu'elle peut perdre et Julien Bayou fait croire qu'il peut gagner. Ils savent très bien l'un et l'autre que ce n'est pas le cas. Valérie Pécresse est loin devant, elle sera largement réélue, elle aura largement une majorité. La question qui se
vous
pose,
dites
c'est
qu'elle a tort de dramatiser, qu'elle est en train de jouer au jeu de la dramatisation
Je ne dis pas qu'elle a ni tort ni raison, c'est le jeu électoral, c'est ainsi, c'est la stratégie qu'elle a choisie. Moi, ce que je dis, c'est que est-ce qu'on veut laisser comme opposition uniquement justement l'extrême gauche avec LFI, Julien Bayou, etc. ou est-ce qu'on souhaite qu'au Conseil régional soient représentés des élus de la majorité présidentielle qui puissent constituer un groupe, faire des propositions, la police régionale pour la sécurité des femmes dans les transports, des salles de repos pour les livreurs, le fonds d'épargne pour soutenir les commerçants des cœurs de ville, ou est-ce qu'on souhaite simplement laisser gauche et droite, comme dans l'ancien temps, s'opposer?
Mais pourquoi elle dramatise, Valérie Pécresse? Elle dit, est-ce que, c'est la question que je vous pose, est-ce que vous la rejoignez sur sa description? Elle dit que cette alliance de la gauche, elle est sectaire, indigéniste, islamo-gauchiste et décroissante. Est-ce que vous reprenez tous ces qualificatifs?
Vous me demandez pourquoi Valérie Pécresse dramatise. Moi, j'observe qu'il y a un point commun entre Valérie Pécresse et Julien Bayou, c'est que tous les deux souhaitent que Emmanuel Macron ne soit pas réélu président de la République.
Oui, ça ne nous a pas échappé.
Voilà.
Et
bah,
donc
je pense que c'est important de le rappeler. Et donc, ils souhaitent entraver la poursuite de la démarche d'Emmanuel Macron de dépassement des clivages. Ils veulent entraver l'implantation de la majorité présidentielle dans les exécutifs locaux et régionaux. Et voilà pourquoi ils mènent cette stratégie.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous ai décrit, de ce que dit Valérie Pécresse sur l'alliance de la gauche?
Je suis la personne qui a dénoncé les compromissions de ELV, à tel point que Julien Bayou a même menacé de déposer plainte contre Gérald Darmanin et moi. Ça n'a pas été fait, et tant mieux. Mais c'est moi qui ai dénoncé le plus vigoureusement dans les médias le fait que ELV voulait financer Miligorus à Strasbourg. Si on n'était pas intervenu, il leur aurait donné 2,5 millions d'euros. Organisation qui promeut l'islam politique proche des sphères d'Erdogan. Ils ont financé le CCIF à Grenoble. C'est nous, avec Gérald Darmanin, qui avons dissous le CCIF en Conseil des ministres. Donc, si vous voulez, les pourfendeurs de l'islamisme au niveau national, ben, je crois que très clairement, ce sont les gens de la majorité présidentielle.
C'est pour toutes ces raisons que vous venez d'énoncer que l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, hier sur Europe 1, ici même, a appelé à voter Valérie Pécresse, tout comme l'ex-président socialiste de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Ils sont donc cohérents à vous entendre avec leurs engagements.
Oui, j'ai vu qu'on était aussi allé chercher Lionel Jospin, qui lui a appelé à voter Julien Bayou. Voilà, il faut suivre.
Mais je vous parle des deux premiers. Est-ce que pour vous, c'est une gauche républicaine, une gauche de droite ?
Non, moi j'ai entendu ce que disait Manuel Valls à votre antenne, et vous l'avez entendu encore mieux que moi, puisque c'est vous qui l'interrogiez. Il a dit, s'il n'y a pas de risque LFI, Laurent Saint-Martin et Marlène Schiappa sont parfaits et impeccables sur le plan de la laïcité et des valeurs de la République. Ils sont talentueux et j'appellerai à voter pour eux. Et s'il y a un risque LFI, eh bien dans ces cas-là, j'appellerai à voter pour Valérie Pécresse. Je dis à fait Manuel Valls, Manuel, il n'y a Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de risque LFI, et donc vous pouvez tranquillement voter Laurent Saint-Martin et Marlène Schiappa. Mais au-delà de ça, moi je ne vais pas courir après les soutiens des anciens premiers ministres, chacun est libre de son vote. Moi je suis très tranquille avec Laurent Saint-Martin, on a une ligne claire depuis le début. Nous on représente la majorité présidentielle. À Paris, je suis en binôme avec Julien Bargeton, qui était dans l'équipe de Bertrand Delanoë, qui a ensuite travaillé avec Anne Hidalgo à la mairie de Paris, qui vient aussi de cette gauche. Bien. Voilà, on vient de la gauche social-démocrate.
C'est ce qui m'intéresse. Vous êtes une femme de gauche, et vous le répétez, et vous le prouvez aussi avec des engagements. Mais est-ce que vous entendez ce que disent certains de ces anciens, l'ancien Premier ministre Manuel Valls et le socialiste Jean-Paul Huchon, que ce sont des traîtres ? Que pense la femme de gauche que vous êtes ?
Que qui est des traîtres ?
Manuel Valls, Jean-Paul Huchon, par rapport justement à ce vote de Valérie Pécresse.
Non, moi je ne me positionne pas comme ça. Chacun est libre de ses choix. Je ne vais pas commencer à insulter les gens qui expliquent qu'ils ne veulent pas voter pour nous. Ce que je veux dire, c'est que ça me paraît un peu baroque d'expliquer qu'on est de gauche, mais qu'on va voter pour une équipe dans laquelle il y a des gens de sens commun, une équipe qui est dirigée par une personne qui est allée à de très nombreuses reprises soutenir la Manif pour tous, qui n'a pas fait son mea culpa sur ces sujets-là. Une équipe avec une personne qui met un signe égal entre terrorisme et immigration. Je comprends la volonté de s'opposer à LFI.
Parfois, le président de la République lui-même a fait un lien entre terrorisme et immigration.
Non, il n'a jamais mis de signe égal entre terrorisme et immigration. Non, mais c'est quand même des choses extraordinairement différentes. Donc moi, je comprends tout ça, mais moi, ce que je dis, c'est que nous, pour avoir un groupe qui porte les valeurs humanistes et les valeurs de la République, des gens qui viennent de la droite humaniste...
Mais ça veut dire que Valérie Pécresse n'est ni humaniste ni progressiste ?
Progressiste, la question se pose sur les droits des personnes LGBT+. Non, je suis désolée, l'équipe de Valérie Pécresse n'est pas claire.
Mais c'est qui délivre des brevets en progressisme aujourd'hui ?
Excusez-moi, si vous trouvez que c'est défendre les droits des personnes LGBT+, que de se rendre à 12
question.
Reprises à la Manif pour tous, moi j'observe qu'il y a quand même une petite contradiction. Et c'est pourquoi depuis le début, nous disons que vous avez deux blocs ambigus. Vous avez un bloc ambigu à gauche qui n'est pas clair sur la question de la République, pas clair sur la question des forces de l'ordre, pas clair sur la question de la lutte contre l'islamisme, et vous avez à droite un bloc ambigu sur les droits des personnes LGBT+, qui va d'un côté peut-être saupoudrer une ou deux associations pour se donner bonne conscience, et de l'autre côté, ne jamais remettre en cause les théories de sens commun ou de la Manif pour tous qui s'insurgent contre le mariage pour tous.
Et entre ces deux blocs, vous êtes au milieu. J'en viens, Marlène Schiappa, aux tensions au sein du gouvernement entre les ministres. Est-ce que c'est le vernis du en même temps qui est en train de craquer ?
De quelle tension je parlais ?
Oh, il n'y en a pas ? Dois-je les énumérer ? Parce que j'ai une liste entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, entre Madame Elisabeth Borne et Madame Pompili. En fait, la question n'est pas de savoir véritablement de quelle nature sont les tensions, c'est jusqu'à quand ces attelages vont-ils tenir ?
D'abord, moi je me suis toujours tenue à la solidarité gouvernementale. Et donc je crois que quand on a un désaccord, eh bien, il s'exprime dans des cénacles internes, on débat et ensuite il y a une ligne du gouvernement qui est définie et donc on est solidaire avec cette ligne, non pas par principe pour être solidaire, mais parce que c'est comme ça qu'avance un gouvernement. Sinon, c'est un amalgame d'auto-entrepreneurs et ça ne fonctionne pas. Et j'observe que l'immense majorité des ministres s'en tiennent à cette loyauté et à cette solidarité gouvernementale, et d'ailleurs quasiment l'entièreté. Et en ce qui concerne Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, moi, comme vous le savez, je crois que la franchise est une qualité assez rare en politique. Et je préférerais toujours deux ministres qui, les yeux dans les yeux, s'expriment en face à face plutôt que les gens qui sont hypocrites,
c'est très
qui se
bien.
Font des grands
de se dire les
et
choses.
Qui dans le dos vont aller
parce que ça existe aussi évidemment, mais c'est très bien de se dire les choses face à face, mais jusqu'à quand va tenir Éric Dupond-Moretti fragilisé dans la défaite dans les Hauts-de-France, mal à l'aise dans les habits de politique? Est-ce que vous reconnaissez, Marlène Schiappa, qu'il a été le missile anti-RN lancé, que ça finit en pétard mouillé aujourd'hui?
Non, mais moi je ne vais pas ici faire le procès du garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti, moi je vais vous dire, en ce qui me concerne, il a toujours répondu présent, notamment sur la lutte contre les violences conjugales. On le sait peut-être peu, mais c'est Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui a décidé de mettre plus de fonds pour qu'il y ait davantage de téléphones grave danger, qui a décidé de déployer les bracelets anti-rapprochement.
On lui reconnaît cet engagement. Moi, je vous parle politiquement. Jusqu'à quand va-t-il tenir, finalement, dans une ligne qui n'est plus et de gauche et de droite, mais qui est et de droite et de droite ?
Mais ça, d'abord, c'est pas vrai. Pardon, mais justement, énormément de mesures que nous mettons en place, justement, sont mises en place et ne sont pas des mesures qui sont dites de droite. Moi, quand je naturalise des milliers de travailleurs Covid qui ont été en première ligne pendant le confinement, qui étaient de nationalité autre que française, qui étaient des étrangers, étaient aides-soignants, médecins, pharmaciens, livreurs, agents de sécurité qui ont gardé des enfants et que je souhaite naturaliser pour qu'ils acquièrent la nationalité française, je ne suis pas sûre que la droite ou la droite extrême...
Et pourquoi on l'entend pas, cela ? Est-ce que c'est aussi de votre responsabilité, vous, femme de gauche, on n'entend pas ces mesures-là ?
Alors moi, c'est la première fois qu'on me dit que je ne communique pas assez, voyez-vous.
Peut-être que vous communiquez trop sur la droite.
Je ne crois pas. Donc ça fait partie des mesures que j'essaye de faire entendre. Mais l'ouverture de la PMA...
Ah, vous reconnaissez, vous dites, essayez de faire entendre.
Mais écoutez, en fait, tout ce qui est positif, vous savez très bien que ça résonne peu dans les médias. J'ai créé une grande cérémonie qui s'appelle les prodiges de la République, où j'ai récompensé des jeunes qui ont mené des actions incroyables de fraternité et de solidarité. Vous savez combien il y avait de journalistes au lancement de cette cérémonie ? Zéro. Personne n'est venu, il n'y a pas eu un communiqué de presse.
C'est l'occasion d'en parler aujourd'hui, vous
voyez.
Quand
on crée un slogan sur un meeting, ça passe en boucle pendant 48 heures sur les chaînes d'infos en continu. Quand on récompense 1000 jeunes méritants et qui méritent d'être mis dans la lumière, eh bien, il y a personne.
Il faut le souligner. Mais puisque vous parlez de slogan, le slogan des marcheurs, c'était, vous en souvenez, Marlène Schiappa, faire de la politique autrement. Moi, je me dis, vous auriez dû faire de la politique comme les autres, vous auriez au moins un vrai parti. Bon, ça vous fait sourire ce matin.
Oui, ça me fait sourire parce que voilà, c'est drôle.
Parce que c'est vrai ?
Non, on peut avoir aussi de l'autodérision, ça n'est pas interdit. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, oui, on a voulu faire de la politique différemment, et notamment en dépassant les clivages, en considérant les idées, justement, pour répondre à la question précédente, de façon pragmatique et lucide. Une bonne idée, c'est pas forcément une idée de droite ou de gauche. Quand on dédouble les classes dans les CP, les CE1, dans les quartiers difficiles, je sais pas vous dire si c'est de droite ou de gauche, c'est vous dire en tout cas que c'est mieux pour les enfants qui sont du coup moins dans la classe et qui sont plus à disposition. Quand Elisabeth Borne met en place le plan Un jeune, une solution et développe l'apprentissage pour que tous les jeunes puissent trouver leur voix, leurs compétences, leurs talents, le faire s'exprimer et puis avoir un vrai métier et un vrai salaire, je ne sais pas vous dire non plus si c'est de droite ou de gauche.
Bon, voilà, on parle des vrais sujets aussi, des actions positives, évidemment.
Absolument.
Ça arrive que les journalistes les mettent en avant. Merci.
Mais j'adore les journalistes. Tout va bien.
Oh bah dis donc, quel éloge, cette déclaration. Merci Marlène Schiappa.
Merci
en tous les cas.
Vous.
Bonne
Merci
journée
Sonia
à vous
Mabrouk.
Et bonne journée évidemment à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Notez le rendez-vous, Valérie Pécresse sera l'invitée d'Isabelle Millet, la présidente de la région Île-de-France, candidate à sa réélection et arrivée en tête au premier tour. Valérie Pécresse à 18h20 sur Europe 1. Tout de suite, l'info Marion Calais, la météo de Laurent Cabrol et le journal de l'Euro, bien sûr. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, le rappel de l'info avec Marion Calais.
C'est le maître mot avant le second tour des élections régionales et départementales dimanche. Mobiliser, autrement dit convaincre les électeurs de se rendre aux urnes après l'abstention de la semaine dernière à 66%. Dans une tribune publiée sur le site internet du JDD ce vendredi, un millier de militants de moins de 30 ans en appellent à la jeunesse. Ne laissez personne d'autre décider à votre place de votre avenir. Dans une étude publiée aujourd'hui, l'Institut Jean Jaurès proche du PS suggère de développer le vote par correspondance ou de revoir le calendrier électoral pour lutter contre l'abstentionnisme. Un mort et 99 disparus, bilan provisoire de l'effondrement d'une partie d'un immeuble il y a 24 heures en Floride, près de Miami. Les opérations de recherche et de secours se poursuivent. Aux États-Unis toujours, le policier blanc reconnu coupable du meurtre de George Floyd sera fixé aujourd'hui sur son sort. 30 ans de prison avaient été requis à son encontre. Des et les restes de vêtements et d'un sac à dos retrouvés dans le Gard, dans une zone escarpée proche du domicile de Lucas Tronche. L'adolescent de 15 ans avait disparu en mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze. Des analyses médico-légales vont être réalisées. Après la liquidation prononcée par la justice, une enquête ouverte pour des mouvements de fonds suspects au sein de la fonderie automobile MBF Aluminium. Les investigations se pencheront aussi sur des rémunérations du dirigeant ou de ses proches, jugées non proportionnées aux résultats de l'entreprise. Et puis un mot de rugby. Finale du top 14 ce soir, retrouvaille entre Toulouse et La Rochelle qui s'étaient déjà affrontés en finale du championnat d'Europe. Toulouse l'avait emporté. Coup d'envoi 20h45.
Merci Marion Calais, 8h32. Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Ah zut. Elle galope drôlement hein, la perturbation qui arrive sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Oh là 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 là. Elle galope déjà, les pluies sont là sur ces côtes et ce sont des régions les moins gâtées. Pardonnez-moi, chers amis, Bretagne, Normandie, Picardie Nord, vous serez sous des petites pluies une bonne partie de la journée. Et ces pluies ne vont pas en rester là, elles vont pénétrer, mais là on ralentit quand même. Sur les pays de la Loire, l'Orléanais, le Berry, la région parisienne, la Champagne et les Ardennes qui seront des régions concernées dans la soirée par le mauvais temps. Voilà, mais partout ailleurs, ce sera du beau temps. Alsace, Franche-Comté, nous avons des plumes, elles vont disparaître sur l'Alsace. Sur le Poitou-Charente, le Sud-Ouest, le Massif Central, la Bourgogne, la Lorraine et la région Rhône-Alpes, ce sera plutôt sympa. Et en Méditerranée, soleil et vent, température entre 17 et 22 sur la moitié nord, 22 à Paris. 25 à 29 au sud, je ralentis et il y a un ralentissement. Ça y est, j'ai appris un mot.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à tous, il est 8h33. Le journal de l'Euro, c'est avec vous, Simon Rubin. Bonjour Simon.
Bonjour.
Pas de match aujourd'hui, pas de match hier. Ça commence à manquer, ça y est. Petite pause bien normale avant le début des huitièmes de finale demain. On va quand même prendre des nouvelles des Bleus ce matin. Les Bleus qui ne sont pas au mieux.
Hein. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire et on va même pas tarder à parler d'hécatombe. Thomas Lemar, hier soir, a été blessé au cours de l'entraînement de l'équipe de France. Alors, a priori, rien de trop grave. Un peu avant lui, un autre coéquipier a dû écourter l'entraînement, Marcus Thuram, l'attaquant. On rappelle que Pavard n'avait pas l'air au mieux ces derniers jours. Hernandez est lui blessé, il pourrait manquer le huitième de finale. Digne, c'est une blessure musculaire. Coman à la cheville et Dembélé, lui, est déjà rentré chez lui depuis plusieurs jours. Alors pourquoi les Bleus sont-ils si fragiles? On a posé la question à notre spécialiste maison, l'entraîneur et préparateur physique Jean-Claude Perrin. Et pour lui, c'est clair, les Bleus sont arrivés dans un état de fatigue extrême.
Fatigue autant technique que psychologique de ceux qui sont arrivés après un championnat éreintant. Quand je lis 60 matchs pour certains garçons, je suis effrayé. Comment les corps, que ce soit sur le plan musculaire, articulaire, tiennent le coup? Je ne parle pas des contraintes psychologiques. Parce que quand vous êtes dans une équipe, les contraintes psychologiques sont terribles.
Jean-Claude Perrin, quant au programme des Bleus, un départ ce matin pour Bucarest en Roumanie où l'équipe de France jouera son huitième de finale. Les Bleus qui initialement avaient prévu de séjourner quelques jours dans la campagne hongroise, ils ont finalement opté pour la ville et pour aller surtout directement au plus près de leur futur rendez-vous dans cet Euro.
La France qui affrontera la Suisse, on le rappelle, ce sera lundi du côté de Bucarest en Roumanie.
Et vous le savez, les Bleus n'aiment pas qu'on dise que ce match est un match plutôt facile. Il n'y a pas de match facile en grande compétition, répète-t-il, ça d'accord. Mais il n'empêche, le jeune Jules Koundé, défenseur de l'équipe de France, a au moins concédé que ce genre de match, normalement l'équipe de France sait les gérer.
L'équipe de France a l'habitude de jouer ce genre de match. Il y a un groupe qui s'est forgé avec pas mal d'expérience, notamment dans ces grands rendez-vous. Donc oui, on est bien préparé pour ça. Après, on s'attend à un match difficile contre la Suisse. On va d'abord bien se reposer et puis se concentrer en détail un peu plus sur notre adversaire. C'est factuel, on a moins de jours de repos, donc oui, on peut considérer ça comme un désavantage. Après, c'est le calendrier qui est comme ça. On ne va pas chercher d'excuses. On va bien se reposer, c'est sûr, parce qu'on en a besoin. C'était un match difficile, intense, avec beaucoup de chaleur. On va avoir besoin de ces 5 jours, mais j'ai aucun doute sur le fait que malgré ces 3 jours en moins, l'équipe sera très compétitive et très motivée à l'idée d'aller chercher l'écart.
Jules Koundé pour aller chercher l'écart, propos recueillis par Marie Guidard.
Simon, on va aussi revenir sur la dimension finalement très politique de cet Euro. On a suivi les fortes tensions entre l'UEFA, la Hongrie, l'Allemagne autour de l'homophobie. Et bien ce matin, un joueur hausse le ton pour demander la plus grande vigilance contre le racisme.
Il s'agit d'un joueur qu'on va apprendre à connaître puisqu'il vient de signer à Paris, Jorginho Wijnaldum, le joueur néerlandais qui a effectivement demandé à l'UEFA d'agir sévèrement contre le racisme dans les stades. En Hongrie, certains spectateurs avaient insulté plusieurs joueurs français imitant des cris de singes. Aucune sanctions. Alors Wijnaldum, lui, il a été clair. Je pense que c'est à l'UEFA de prendre cette décision d'interrompre le match, pas aux joueurs. L'UEFA doit dire ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter cela. C'est à l'UEFA de protéger les joueurs de l'Euro. Les Pays-Bas qui joueront à Budapest, ce sera dimanche soir 18h contre les Tchèques.
Merci beaucoup Simon Rubin. C'était le journal de l'Euro sur Europe 1. Il est 8h37. Dans un tout petit instant, notre santé avec Jimmy Mohamed.
Vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais les carottes seraient bénéfiques pour vos yeux. Je vous explique ça dans un instant.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h39 sur Europe 1, alors qu'on s'approche du week-end et que, vous le savez, Laurent Mariotte arrive dans la matinée le week-end. On va parler de carottes avec Jimmy Mohamed. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors on dit que les carottes donnent bonne mine, mais elles permettraient aussi de conserver tout simplement une bonne vue.
Oui, c'est ce que vient de démontrer une équipe de chercheurs de l'INSERM. Les carottes, mais aussi les autres aliments faisant partie du régime méditerranéen, permettent de tout simplement protéger votre rétine et plus particulièrement d'une maladie de la rétine qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou encore DMLA. En fait, ces aliments, dont la carotte, contiennent ce qu'on appelle des caroténoïdes, qui sont des pigments végétaux qui vont être protecteurs de votre œil. Jusqu'à présent, les scientifiques se doutaient que certains aliments pouvaient protéger l'œil, mais c'est la première étude qui arrive à le prouver formellement et elle est française, Cocorico.
Et jusqu'à quel point est-ce que les fruits et légumes peuvent protéger nos yeux?
Alors dans cette étude qui a suivi pendant 8 ans plus de 600 patients, ceux qui avaient une concentration plus importante en caroténoïdes, avec 40% de risque en moins de développer une DMLA sévère. C'est pas rien face à une maladie qui est la première cause de cécité en France après 50 ans. Le simple fait d'avoir une alimentation variée et équilibrée vous permettra tout simplement de réduire le risque de forme grave de la maladie. Alors, ces caroténoïdes vont agir d'une façon assez particulière. Ils vont d'une part absorber la lumière bleue qui est connue pour endommager la rétine sur le long terme, et ils vont jouer d'autre part un rôle antioxydant afin de protéger la rétine de ce qu'on appelle le stress oxydatif.
Et cru ou cuite, c'est pareil, Jimmy ?
Tout marche.
Ok, alors vous dites que ces caroténoïdes sont présents dans les carottes, mais plus largement dans le régime méditerranéen.
Oui, exactement, c'est le régime, ou plutôt le mode de vie qu'il faut adapter, car on sait qu'il permet de lutter aussi contre les maladies cardiovasculaires et réduit aussi le risque de certains cancers. On parle aussi de régime crétois, c'est exactement la même chose. Alors, ce régime, il est simple, il est basé sur les fruits et les légumes, et vous trouverez ces caroténoïdes dans les fruits et les légumes jaunes-orangés, comme les tomates ou les agrumes, ainsi que dans les légumes à feuilles vertes, comme le chou ou les épinards. Le régime méditerranéen apporte aussi des oméga-3 grâce aux poissons gras et aux encore à l'huile d'olive. Qui aurait cru un jour que votre alimentation puisse vous aider tout simplement à garder des yeux en bonne santé?
Eh bien, maintenant j'y crois. Merci Jimmy Mohamed. On vous retrouve à 15h tout à l'heure sans rendez-vous avec Mélanie Gomez.
Oui, on vous proposera de parler de sexe, mais de façon différente.
Waouh. C'est difficile puisqu'on a dit déjà dans le passé beaucoup de choses sur le sexe.
Mais
du coup, il faudra écouter à 15h. On sera au rendez-vous, sans rendez-vous, justement. Fanny Agostini, que j'entends doucement ricaner derrière. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre planète, tous les matins avec vous. Fanny, aujourd'hui vous attirez notre attention sur la grande réussite du développement des énergies renouvelables avec un parc de panneaux photovoltaïques, mais pas n'importe lequel, il flotte.
Oui, des panneaux photovoltaïques qui flottent, oui, flottant, sur la commune de Piolenc. Alors, c'est une première en France. S'il existe de nombreux exemples pour illustrer la révolution énergétique en cours, et notamment dans l'énergie solaire, celui-ci est vraiment remarquable. Cette petite ville du Vaucluse a transformé 50 hectares d'une ancienne carrière engloutie par les eaux d'un lac en parc de panneaux photovoltaïques flottants. Aujourd'hui, c'est 47 000 panneaux, de quoi alimenter plus de 4 300 foyers, soit bien plus que n'en compte la commune. Et les projets de centrales flottantes sont en train de se multiplier en ce moment en France, car c'est une manière d'éviter les conflits de voisinage que peuvent générer les champs de panneaux solaires habituellement construits sur la terre ferme et qui parfois, c'est vrai, occupent des terres agricoles.
Alors Fanny, en ce moment, les énergies renouvelables rencontrent un certain scepticisme quant à leur rentabilité, leur efficacité.
Oui, en effet Mathieu, en ce moment il y a plusieurs ouvrages qui critiquent l'énergie renouvelable, surtout l'éolien et le solaire, en mettant en avant leur côté intermittent, leur coût élevé et leur manque de retour sur investissement. La réalité est que ces questions ont trouvé des réponses. Pour chaque territoire, il y a des énergies renouvelables adaptées. Ce qui est intéressant aussi et surtout, c'est de bien les choisir et de travailler avec les acteurs locaux. L'énergie solaire, elle n'est ni trop chère ni peu rentable. D'ailleurs, selon la Cour des comptes, les projets d'énergie solaire retenus dans le dernier appel d'offres du gouvernement produiront de l'électricité à 53 euros le mégawatt par heure, ce qui correspond à la fourchette haute du prix de l'énergie nucléaire et moins de la moitié du coût de l'électricité produite par l'EPR de Flamanville.
Oui, c'est clair que les coûts se rapprochent. Alors malheureusement, la France est à la traîne dans le développement de l'énergie solaire.
Oui, on traîne pour atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés en termes de production solaire. Si nous souhaitons respecter la programmation pluriannuelle de l'énergie, il faudrait installer de l'électricité solaire 4 fois plus vite que ce que nous faisons depuis 2 ans. Ce n'est pas seulement les entreprises du renouvelable qui disent que c'est urgent. L'Agence internationale de l'énergie, qui est connue pour ses positions assez précautionneuses sur la transition énergétique, vient elle-même de publier un rapport expliquant que nous devons entrer dans l'ère des énergies renouvelables, à la fois pour préserver le climat, mais aussi pour rendre notre économie plus performante.
Merci Fanny Agostini, notre planète, c'est tous les matins et c'est sur Europe 1. 8h44, Julie est avec nous en studio. Dans un instant, la revue de presse que Nicolas Canteloup arrive.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore en studio avec nous, Sonia Mabrouk et son invité.
Eh oui, Marlène Schiappa, bonjour. Alors, comment lutter contre l'abstention? Comment mobiliser les jeunes? Où est votre campagne pour le second tour pour les jeunes?
Excusez-moi, Madame Mabrouk, excusez-moi, mais on a fait campagne sur Snapchat, sur TikTok, sur les forums de jeuxvideo.com. Alors, excusez-moi. Non, mais excuse-moi, la vieille, mais tu connais les réseaux sociaux, ça te dit quelque chose ou quoi?
Oula.
T'es internet ou t'es encore à galérer avec ton téléphone à cadran?
Oh.
Non, mais attendez, excusez-moi, Marlène Schiappa, mais c'est pas un peu caricatural, c'est juste TikTok de faire une. TikTok de comme support pour faire une campagne pour les jeunes, c'est ça? Non, mais écoutez, excusez-moi, mais c'est fini 7 sur 7 avec Anne Sinclair. Hein, faut faire des stories, faut faire des reels sur Insta, faut faire des featuring avec Squeezie. Non mais Sonia, je suis désolé, mais si tes références c'est encore Léon Zitrone et Bruno Mazur, faut percuter, on est en 2021.
Bon, mais merci pour le coup de vue dès le matin au réveil. Merci Marlène Schiappa, à vous Julie.
Merci Sonia. Allez, tout de suite on retrouve Mathieu Béliard pour le principal titre de l'actualité.
Eh oui, bonjour Julie. Bonjour. Oui, ou un coup de jeune, on sait pas. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1. L'actualité c'est bien sûr les régionales avec, tiens, cette proposition du candidat écologiste Julien Bayou qui souhaite offrir un vélo à tous les lycéens d'Île-de-France. C'est bien parce que ça prépare quelque part, c'est vrai Julie, les jeunes à leur vie après le bac, celle de livreur de sushi ou de hamburger pour des loups. Et puis l'autre info, ce sont ces deux nouveaux blessés en équipe de France à l'entraînement hier, on en a parlé à l'instant, après Dembélé, Digne Hernandez, c'est au tour de Thomas Lemar et Marcus Thuram. Alors, comment se sont-ils blessés? Didier Deschamps est avec nous.
Oui, bonjour, oui, bon, ben, écoutez, c'est malheureusement, c'est simple à expliquer. Hein. Marcus et Thomas travaillaient un schéma d'attaque. Ils devaient barquer, ils étaient devant le but. Et là, ils gueulent. Oh, mais merde, non, Hugo, arrête. Non, ça suffit. Ça sort vite. T'es sorti en mode Street Fighter 2, là. Va falloir que tu apprennes à te maîtriser, hein, Hugo. Hein, non, mais depuis le match contre le Portugal, il est intenable. Il arrête pas. Non, mais bon, putain, on va finir la compétition à 5 ou 6, à ce rythme. Oh là là.
Merci, Didier Deschamps. Jean Castex était hier dans les Landes pour évoquer la situation. Situation sanitaire, la vaccination ralentit alors que le variant Delta préoccupe les autorités sanitaires. Bonjour Monsieur le Premier ministre.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Graprolle et bonjour à papy et à mamie qui doivent inciter leurs petits-enfants à se faire vacciner. Hein, je le dis, le variant Delta touche les jeunes, il ne faut pas l'oublier, les jeunes vont moins se faire vacciner que les autres, il faut le savoir. Alors, il faut les convaincre. Hein. Dites-leur par exemple que je ne sais pas, papy, mamie, dites-leur à vos jeunes, aux petits-enfants, que pour hériter, il faudra un passeport sanitaire.
Hein?
Mais oui. Mais non, mais oui. Mais en général, l'argument du portefeuille, c'est toujours payant, vous savez.
Alors, le variant Delta est très présent dans les Landes. Hein?
Oui. Au niveau des virus, il faut maintenant redouter le variant Delta, le variant landais. Hein, le variant landais, le landais est vicieux. Hein. On devait déjà, vous vous souvenez, se méfier de Norda le landais.
Oh
maintenant, il faut se méfier de virus le landais.
Oh là là, mais magnifique. Merci.
Oui, c'est bien trouvé. Merci de votre encouragement.
Allez, dimanche, on vote pour le second tour des régionales. Les têtes de liste du RN ont déçu. Pourquoi le Rassemblement national va-t-il moins bien qu'en 2015? On va poser la question à Jean-Marie Le Pen. Bonjour.
Oui, bonjour Madame Leclerc. Et bonjour Monsieur Blédard. Je suis Graprol. Et bonjour Docteur Abdelkader Homer Simpson, n'est-ce pas? Oui. On est dans les fonds de tiroir, n'est-ce pas?
Oui, vraiment, c'est la fin là, ouais.
Oui, c'est la fin
de l'année.
Oui, et dimanche donc, je le rappelle, nous votons. Et personnellement, je m'abstiendrai, n'est-ce pas? Car oui, vous vous demandiez pourquoi le Rassemblement national fait moins bien qu'en 2015.
Oui.
Mais parce que, chère madame, en 2015, le Rassemblement national n'existait pas, n'est-ce pas? Car le 1er juin, souvenez-vous, le 1er juin 2018, date fatale, mon Front National est devenu... on peut changer la bonnette du micro, si vous
voulez. Ah oui, vraiment, ça pousse là-haut.
Oui, mais on est certain de changer les masques, moi je change les bonnettes toutes les 30 secondes, n'est-ce pas? Oui, donc je le disais, ne me détournez pas de mon propos.
Allez-y.
Le 1er juin 2018, mon Front National, n'est-ce pas, est devenu le Rassemblement National. Et une pâle et fade copie de mon ancien parti, disons-le, qui sentait bon, souvenez-vous-en, la testostérone et le treillis.
Oh là là.
N'est-ce pas? Et je ne compte pas, donc, voter pour, n'est-ce pas, ce parti, comment le définir, ce parti propre et timide,
oui, ça,
et dont
oui.
Les cadres ont de la camomille qui coule dans les veines.
Ah, vous trouvez que c'est la faute de Marine Le Pen, ces élections qui sont un échec, hein?
Mais bien sûr que oui, allons, ouvrez les yeux. Marine a tout raté dimanche dernier. Elle a raté les régionales et d'ailleurs je note aussi la fête des pères.
Oula.
Pourquoi ferait-elle mieux cette semaine?
Alors votre fille a évoqué un désastre civique.
Mais le désastre, c'est elle le désastre. Je ne sais pas si elle m'entend, cette nularde. Mais à force de vouloir se dédiaboliser, se défachoiser, se décuclaniser, et on voit le résultat, n'est-ce pas? Nous sommes devenus des excusez-moi, je vais être vulgaire. Nous sommes devenus des centristes, n'est-ce pas?
Pire,
je vais lâcher le mot, car oui, j'ose. Nous sommes devenus des humanistes. J'ai honte. C'est la chouma, madame Leclerc, la chouma, j'ose. Changez-moi la monnaie.
Bon, oui, allez. On vous laisse sur Marine Le Pen, c'est pas possible. Après avoir voté blanc au premier tour en PACA, Éric Ciotti a décidé de voter Renaud Muselier au second tour. Bonjour Éric Ciotti.
Oui, bonjour Madame Julie. Retrouvons un peu de calme sur votre antenne. Bonjour oui. Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol. Écoutez, oui, après un mûr examen de la situation, j'ai décidé, je dis solennellement, en mon âme et conscience, oui. et sans ambiguïté, avec concomitance,
bien sûr.
J'ai décidé de voter Renaud Muselier dimanche prochain.
C'est par esprit républicain, c'est ça?
Oui, non, c'est parce que le Rassemblement National va perdre. Voilà.
Ah, vous êtes sûr? Pourtant, Thierry Mariani est arrivé devant au premier tour. Hein.
Ah bon?
Bah, tiens.
Ah oui. Oui, alors j'appelle à voter Thierry Mariani. Je l'ai toujours dit, c'est un homme de valeur.
Et en même temps, c'est vrai qu'il a fait un moins bon score qu'attendu. Hein.
Ah oui, bon, mais voilà, alors donc j'appelle, ce que je disais, à voter Renaud Muselier.
Eh ben voilà.
Vous savez, je ne suis pas homme à me déjuger. Il y a des principes qu'il faut respecter. J'ai des principes.
Ouais.
Et, oula, 5,3 quand même. Hein.
5,3 quoi?
Non, non, rien, c'est juste, j'ai acheté un machin, un anémomètre qui mesure la force du vent et la direction pour savoir où me situer. C'est comme une girouette, mais en plus technique.
C'est
Monsieur
ça.
Cabrol doit connaître un anémomètre.
5,3, bon d'accord. Christian Estrosi, le maire de Nice, a lancé un appel à Renaud Muselier pour que les socialistes et les écologistes soient intégrés au Conseil régional.
Oui, oui, et je le soutiens, d'autant plus que dans quasiment toutes les régions, les socialistes votent pour nous, je le note. Manuel Valls, socialiste, a appelé à voter Valérie Pécresse. Jean Paulhuchon, 17 ans, socialiste au président du conseil régional, Île-de-France aussi. Vous savez, en fait, ce qui me dérangeait le plus chez les socialistes, c'est surtout qu'ils étaient de gauche. Mais maintenant, s'ils sont de droite, les socialistes, je pense qu'on va beaucoup mieux s'entendre.
Eh ben voilà, merci beaucoup, monsieur Ciotti. Et Emmanuel Macron reste étonnamment silencieux après la déroute de son parti et une abstention record. Christophe Castaner, vous êtes le chef de file des députés En Marche. Bonjour.
Ah, quel plaisir. Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, Monsieur Cabrol. Merci de m'accueillir sur cette musique qui évoque bien la compétence des marcheurs et leur discipline collective. Écoutez, Emmanuel Macron a choisi de faire comme les Français qui se sont abstenus. Lui aussi, il s'abstient, je le note, de réagir.
Bon, enfin, cette abstention reste un désaveu. Hein. Le président doit être déçu. 60% d'abstention chez vous, 67% pour les Insoumis et 73% pour le RN.
Oui, ben vous voyez, on prend une tôle, permettez-moi d'être trivial, alors que c'est nous qui avons le plus d'électeurs qui ont voté. Alors imaginez si ceux de nos concurrents s'étaient déplacés autant que les nôtres, qu'est-ce que ça aurait donné? On aurait fini à 2%. Donc nous encourageons à nouveau les Français à ne pas voter dimanche.
Eh ben voilà. Merci,
la consigne est claire.
Tout autre chose d'après un sondage IFOP, le confinement a changé les habitudes des Françaises. 44% des femmes déclarent moins se maquiller. La tendance est à l'acceptation de soi. Les femmes sont plus décomplexées, on va dire.
Ouais, salut à toutes les femmes qui nous écoutent. C'est Nadine Morano pour ma rubrique beauté et mes tutos make-up. Mais ouais, mais il y en a marre que nous, les femmes, on doive en permanence se cacher derrière un tas d'artifices pour plaire à des gens dont on n'a rien à foutre.
Nadine Morano, bonjour.
Ouais, salut la Leclerc. Ben ouais. Ben moi, je le dis, je suis fière de faire partie des femmes qui assument leur nature. Moi, ça y est, je cherche plus à plaire à tout compris, tu vois. Avant, je me souviens, je me maquillais, tu vois. J'utilisais des tas de cosmétiques, des crèmes, en veux-tu, en voilà. Je tapais pas trop sur les musulmans, les homos, etc. Je disais que j'avais des amis noirs. Maintenant, c'est terminé. J'ai bazardé mon vernis républicain. Je suis nature. Je rejette pas les avances de Marine Le Pen. C'est important de vivre comme ça, décomplexé. Moi, je te dis, je revis, je m'assume et je vais encore plus m'assumer pendant la présidentielle. Je te le dis tout de suite.
Ah bah tiens, Nadine Morano. Allez, pour terminer, on va parler des Bleus qui lundi affrontent la Suisse en huitième de finale de l'Euro de football. Les supporters sont déjà bien sûr
Mais c'est fini de jouer là contre toutes mes équipes préférées.
La Suisse, Nicolas Barré, bien sûr, notre chroniqueur économique. Bonjour, mais comment ça, vous n'allez pas supporter les Bleus?
Ben bien sûr que si, Julie. Ah. Je suis patriote et en plus j'adore le foot. Vous savez, j'ai fait du foot quand j'étais jeune.
Ah bon, et vous jouiez quel poste?
J'étais poteau de corner.
Oh non, arrêtez.
Oui, ils m'étaient là-bas et j'étais debout dans un coin du terrain et je ne devais pas bouger. Ah, je faisais ça super bien. C'était un poste... Ouais, mais tu rigoles, Mathieu, mais c'est un poste vachement important.
Ben oui.
On me disait toujours, tu sais, Nico, si tu n'étais pas là pour nous donner un repère, ben, on ne pourrait pas savoir quelles sont les limites du terrain. Mais après, c'était... Non, mais c'était sympathique. Mais des fois, tu sais, ils me mettaient un autre poste. Des fois, j'étais le ballon.
Non. On peut revenir au match, s'il vous plaît. Allez, Nicolas.
Oui. Bah, la France, c'est mon pays, mais ils jouent contre toutes mes équipes favorites. Déjà, l'Allemagne, j'ai eu du mal à choisir. Hein. Mais alors, la Suisse, c'est mon pays de cœur. Hein. C'est les meilleurs comptables d'Europe. Hein. C'est un système de banque d'affaires ultra performant. À chaque fois que Benzema va tirer, j'aurai l'impression qu'on gifle un contrôleur de gestion. Ça va être un crève-cœur.
Alors, est-ce que vous avez un pronostic, Nicolas?
Je dirais victoire de la Suisse.
Ah bah tiens.
Ouais, parce que je sais pas si les Bleus vont oser tellement attaquer. Hein. Vaut mieux pas trop faire les cons avec le pays qui gère vos sous. Hein.
Comme vous dites.
Tandis que l'euro est géopolitique. Ouais. Merci Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse que bien sûr à retrouver sur Europe1.fr. Philippe Vandel est avec nous, Culture Média va démarrer. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, on va recevoir Yoann Riou, le co-présentateur et commentateur. Il commente le foot sur l'équipe, mais sans voir les matchs. Et là, il va commander un concours de billes. Ce sont les nouvelles émissions qui cartonnent, c'est régressif. Il y avait les dominos, ouais, hier. Et puis il y avait les Lego Masters. Et là, c'est les billes ce soir sur TF1. Au sommaire également du sport, demain, c'est le Tour de France qui reprend. Ça démarre depuis la Bretagne. On sera avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, ancien journaliste ici au sport, à Europe. Et puis nous serons avec l'actrice et réalisatrice Julie Delpy qui sort son nouveau film qui commence comme une chronique de couple et qui flirte ensuite vers la science-fiction douce.
C'est Culture Média avec Philippe Vandel et toute son équipe de 9h à 11h sur Europe 1. Je vous souhaite un très bon week-end. Pierre de Villeneuve vous réveille demain, samedi et dimanche. Je vous retrouve lundi matin avec toute l'équipe en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.